ses projets pour le monde. Il a marqué une étape décisive de cette révélation de lui-même lorsqu'il a envoyé Jésus, son fils, dans le monde pour ramener les hommes à lui, pour mourir à leur place et ressusciter pour inaugurer pour eux une vie nouvelle. Il a confié au peuple de ses disciples, donc à son Église, un message transformateur, un message vital, sans lequel l'être humain passe totalement à côté de ce qui fait sa vocation même. Or, ces actes historiques de Dieu, qu'est-ce que Paris en a fait ? N'est-il pas dramatique que l'immense majorité de nos concitoyens passe sans cesse à côté d'un message qui pourtant est pour eux aussi salutaire, essentiel, qui devrait passer avant toute autre chose ? Cela fait quelques semaines que, à raison d'un dimanche par mois, nous étudions le livre du prophète Jonas. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 3. Et je vous propose, dans quelques instants, de suivre la lecture de ce chapitre avec moi. Je vous rappelle que ce livre nous présente Jonas comme, on pourrait dire, un prophète raté. Un homme qui, plutôt que de suivre l'appel divin à aller proclamer la parole de Dieu dans la grande ville de Ninive, a préféré s'enfuir, tenter de s'enfuir loin de Dieu. C'est totalement illusoire, bien sûr, de vouloir s'enfuir loin de Dieu. Mais au chapitre 1, un autre aspect intéressant que nous avons vu, c'est une première indication de ce que Dieu, déjà à l'époque de Jonas, avait à cœur non seulement le peuple avec lequel il était entré en alliance, Israël, mais aussi toutes les nations. Et entre autres, il avait à cœur cette grande ville païenne, Ninive. Au chapitre 2, nous avons vu l'étonnante leçon que Dieu a donnée à Jonas. Vraiment étonnante. En lui faisant subir une épreuve inattendue. On a appelé ça un drôle de miracle pour un drôle de prophète. Il lui a rappelé que l'unique espérance de l'homme, c'est lui, c'est Dieu. Et si cela est vrai pour l'Israélite, Jonas, c'est vrai aussi pour les Ninivites. Comment Jonas pourrait-il refuser de donner à Ninive l'occasion d'être secouru par Dieu, alors que lui-même l'a été. Nous arrivons ce matin au chapitre 3, donc, et je vous invite à écouter la lecture du texte. Pour ceux qui voudraient suivre dans les Bibles bleues, c'est à la page 899. Jonas 3. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans Ninive, « Par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les humains et les bêtes soient couvertes d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa voix mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas ?» Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voix mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas. Nous allons réfléchir à ce texte en 3 étapes ce matin. D'abord, Jonas remis sur pied pour sa mission. Versets 1 à 4. Ensuite, une repentance étonnante. Versets 5 à 9. Et ensuite, une divine surprise. Verset 10. Jonas remis sur pied pour sa mission, donc, tout d'abord. On voit au début du chapitre 3, le narrateur nous fait comprendre habilement que Dieu offre vraiment un nouveau départ à Jonas, une deuxième chance. Si on regarde le verset 1, on voit qu'il reprend exactement les mots du verset 1 du premier chapitre. La parole du Seigneur parvint à Jonas, on avait déjà vu ça au chapitre 1. Le narrateur ajoute simplement une deuxième fois. Peut-être une façon de montrer que la première fois n'a pas suffi. Mais cette fois-ci sera la bonne, en tout cas dans un premier temps. Au verset 2 à nouveau, les mots sont presque les mêmes que ceux du verset 2 du premier chapitre. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » peu de choses près la même chose que ce qui avait été dit au début du chapitre 1. Et cette fois-ci, Jonas s'exécute. Après le coup du poisson, il a compris que c'est une folie de vouloir fuir Dieu et que Dieu n'est pas à court de solutions improbables pour accomplir ses projets. Donc Jonas part enfin à Ninive. Ninive se trouve se trouvait près de la ville actuelle de Mossoul, au nord de l'Irak, pour donner une indication géographique. Rappelons ce que représentait cette ville pour les Israélites de l'époque. Elle était perçue comme une puissance étrangère, déjà, menaçante et potentiellement hostile. Donc être envoyé à Ninive, c'est un peu comme si un chrétien parisien, aujourd'hui, était envoyé à Marseille, par exemple. Je plaisante plus sérieusement, un peu comme si l'un d'entre nous recevait un appel à aller proclamer l'évangile à Bagdad ou à Téhéran. Mais cette ville, à première vue, profondément hostile à la foi en Dieu, en tout cas ignorante du Dieu qui s'est révélé à Israël, est cependant précieuse aux yeux de Dieu. Verset 3, Ninive était une grande ville devant Dieu. Certaines versions traduisent une très grande ville. Certains pensent qu'il s'agit plutôt d'une sorte de superlatif. Mais la traduction littérale, une grande ville devant Dieu, cadre bien avec le thème de ce livre. Dieu aime les nations. Elles sont grandes, c'est-à-dire importantes à ses yeux. Et Dieu veut sauver des hommes et des femmes partout dans le monde. Et lui qui est allé sauver Jonas jusque dans le ventre d'un grand poisson, peut sans aucun doute aller sauver des hommes et des femmes qui habitent une ville même profondément païenne. Donc Ninive était grande aux yeux de Dieu, mais elle était aussi grande tout court. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour, précise notre auteur. Alors certains commentateurs s'interrogent sur ces dimensions et les trouvent irréalistes. On relève que la ville de Ninive, d'après les fouilles archéologiques, avait vers l'époque de Jonas une muraille de 13 kilomètres, ce qui n'exigerait pas 3 jours de marche, loin de là. Mais une explication plausible parmi d'autres, c'est que par la mention Ninive, l'auteur évoque l'ensemble du district de Ninive, une réalité géographique dont on a quelques traces, quelques références dans la littérature de l'époque. Donc ça correspondrait un peu à la Grande Couronne, si vous voulez, par opposition à Ninive intramuros. Dans ce cas, on parle d'une région qui avait environ 100 km de diamètre. Donc là, ça correspond largement à 3 jours de marche. Alors d'autres pensent que c'est plutôt l'idée que Jonas n'a pas simplement traversé la ville, mais qu'il s'est arrêté dans chaque foyer, ou au moins dans chaque quartier. À vrai dire, peu importe, en tout cas, il n'y a pas de raison de contester cette remarque dans le livre de Jonas. Jonas s'exécute, il va à Ninive, et il fait le tour de la ville, donc, ou de la contrée, pour proclamer le message que Dieu lui a confié. Et quel est ce message? Eh bien, il est particulièrement bref. Peut-être que certains aimeraient que les prédications ici soient aussi brèves. En tout cas, le résumé qui nous en est donné, c'est « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Amen. On peut penser que c'est un résumé, que Jonas a quand même été un peu plus loquace. En tout cas, ce n'est pas très joyeux. Pourquoi Dieu annoncerait-il ainsi la destruction de Ninive? On peut s'interroger. Si c'est simplement pour dire aux gens qu'ils vont être détruits, pourquoi envoyer quelqu'un là-bas? D'abord, posons-nous la question du fond de ce verdict de Dieu qui peut nous choquer. Eh bien, c'est une conséquence logique de l'idolâtrie qui règne dans cette grande ville païenne. Ninive était, comme beaucoup d'autres régions à l'époque, une région où on adorait une quantité de divinités faites à l'image des hommes. Et comme c'est presque toujours le cas, cette idolâtrie s'accompagnait d'immoralité. C'est assez naturel, assez logique. Dès lors qu'on s'éloigne de notre vocation qui est d'être tourné vers Dieu, de l'aimer, de vivre en relation avec lui, lorsqu'on adore plutôt le reflet de nous-mêmes, des idoles, eh bien, il n'y a aucune raison de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et Dieu lui-même a précisé au chapitre 1, verset 2, que le mal que Ninive a fait est monté jusqu'à lui. Si nous trouvons trop sévère le verdict de Dieu à l'encontre de Ninive, c'est sans doute parce que nous perdons facilement de vue que nous avons un Créateur qui nous a créés pour vivre en relation avec lui. Et c'est le sens même de notre vie, c'est notre vocation humaine, encore une fois. Et donc, lorsque nous décidons de vivre sans tenir compte de Dieu ou en fabriquant nos propres dieux, c'est-à-dire en fait nos propres raisons de vivre, qui qu'il s'appelle, ces dieux Moloch, Baal, Artémis, ou bien carrière, vie sentimentale, argent, vacances. Si nous décidons de vivre sans tenir compte de Dieu et plutôt en nous fiant à ces choses-là, eh bien nous trahissons ce qui est la raison même pour laquelle Dieu nous a créés. Nous prétendons vivre avec les ressources de Dieu tout en niant le Créateur. Nous exigeons de pouvoir vivre et prospérer tout en nous détournant ou même en nous révoltant contre celui qui nous donne le souffle de vie et toute bonne chose. Pourquoi est-ce que Dieu nous permettrait indéfiniment de le mépriser et de vivre ainsi? Pourquoi devrait-il continuer à renouveler notre vie alors que nous avons choisi de nous détourner du Créateur de la vie? J'utilise « nous » dans un sens générique ici, bien sûr. Souvent, nous avons le sentiment que Dieu nous doit beaucoup de choses et que c'est scandaleux si Dieu prononce un verdict contre l'humanité. Comme si c'est nous qui avions créé Dieu pour notre service et non pas le contraire. En fait, nous exigeons de pouvoir vivre et prospérer en dehors de Dieu, tout en ayant toutes les ressources de Dieu. Dieu donc annonce contre Ninive un verdict de condamnation à mort, parce que cette ville célèbre quotidiennement la négation du Créateur. Et ce qui devrait nous faire trembler, c'est que Paris est au moins aussi endurci que Ninive. Je repose la question, pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jonas à Ninive si c'est simplement pour proclamer sa destruction? Quel intérêt s'il n'y a de toute façon aucune façon d'en réchapper? Eh bien, la suite du texte ne nous laisse aucun doute sur l'intention de Dieu. Lui qui, en toute logique, avait le droit de détruire Ninive, avait d'autres projets pour elle. Et le verdict de condamnation, en apparence irrévocable, était en réalité une dernière chance laissée à cette grande ville de se tourner vers Dieu. Et ça nous amène à notre deuxième point, une repentance étonnante. Je me souviens que ça m'avait frappé il y a un peu plus de 5 ans, un candidat à l'élection présidentielle d'alors proclamait « Je suis contre la repentance » dans un discours. En réalité, en y regardant de plus près, il utilisait le terme dans un sens fort différent de celui que donne la Bible. Mais il faut reconnaître que ce mot n'est pas très à la mode, le moins qu'on puisse dire. Pour beaucoup, il apparaît vieillot, et il semble évoquer une sorte d'autoflagellation où on se roule dans la contrition de manière un peu ridicule. Ce n'est pas ça la vision biblique de la repentance. La repentance dans la Bible, c'est une sorte d'acte en deux mouvements. D'abord, une prise de conscience qu'on est en train d'aller dans le mur, en s'opposant à Dieu et en demeurant loin de lui. Et ensuite, un demi-tour pour changer d'orientation de vie, afin de vivre avec et pour lui. Mais revenons à Ninive. Imaginez la scène. Il y a un prophète étranger venu d'un pays lointain et petit, plutôt considéré comme hostile. Ce prophète arrive dans la capitale et crie au coin des rues « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Quelle réaction imagine-t-on? Plutôt, je pense, une réaction indifférente ou moqueuse. Et pourtant, dans notre texte, c'est tout le contraire. Verset 5, « Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. » Alors, ce n'est pas un sac Carrefour qu'il faut imaginer ici. Ça correspond à une tradition par laquelle on portait une sorte de vêtement en poil de chèvre qu'on couvrait de cendres et qui était revêtu en signe de deuil ou de repentance. Une tradition qui était très répandue au Proche-Orient ancien. Le texte nous décrit à la fois une réaction spontanée de la part du peuple et une décision officielle du roi de Ninive qui ordonne la repentance partout dans la ville. Certains commentateurs trouvent amusant que le roi semble être le dernier prévenu et le dernier à réagir, peut-être les lenteurs de l'administration de l'époque. En fait, il est possible que l'épisode ne soit pas raconté de manière strictement chronologique et qu'il nous montre simplement d'abord l'angle du peuple et ensuite l'angle de l'autorité royale. C'est possible. Le message qui ressort de cet épisode, en tout cas, est assez clair, et même très clair. Ninive écoute l'avertissement proclamé par Jonas de la part de Dieu, et Ninive agit en conséquence. C'est cela la repentance. Alors il y a certains détails qui peuvent surprendre, par exemple le fait que les animaux soient eux aussi recouverts de sacs et de cendres, on a un peu du mal à le visualiser. En fait, on a des références à cette pratique dans l'histoire de la Perse voisine. On n'a pas d'exemple spécifique pour Ninive, mais il est tout à fait raisonnable de penser que cela a pu avoir lieu également à Ninive. C'était une tradition régionale. C'était certainement une façon d'exprimer que vraiment toute la ville se réoriente vers Dieu. C'est symbolique, bien sûr, en ce qui concerne les animaux, mais c'est une symbolique qui est forte. Encore une fois, sans doute est-il utile de s'arrêter un instant pour évoquer la question de la crédibilité de cet épisode. Les commentateurs critiques de la Bible sont pour le moins dubitatifs, et on les comprend dans un sens. On a Jonas qui prononce, semble-t-il, une phrase, peut-être un résumé. En tout cas, un message semble sec et concis, et puis toute une ville se repent. Est-ce vraiment crédible? N'est-ce pas une exagération manifeste qui irait dans le sens du caractère au moins partiellement fictif du livre de Jonas? Il y a une chose qu'on peut sans doute concéder, je pense, même en faisant pleinement confiance à la fiabilité du texte biblique, il n'est sans doute pas obligatoire de supposer que tous les individus présents à Ninive, sans la moindre exception, ont eu cette attitude de repentance. Le texte nous décrit plutôt une attitude générale qui a touché l'ensemble de la ville. On n'est pas obligé de penser que sans la moindre exception, chaque Ninivite a eu à cœur de se repentir. Quoique Dieu a déjà accompli des miracles jusqu'à maintenant dans le récit, rien ne l'empêche d'accomplir encore un miracle. Quand Dieu touche les cœurs, c'est d'ailleurs toujours un miracle. Mais il n'y a aucune bonne raison cependant, je pense, de contester qu'un vaste mouvement a eu lieu dans cette ville. Encore une fois, Dieu, par son esprit, a pu toucher les cœurs des Ninivites. Certains relèvent également que l'époque de Jonas correspond à celle d'un certain roi assyrien, Ashurdan III, sous lequel a eu lieu toute une série de violents conflits armés. À la même époque, il y a eu une éclipse du soleil qui a donné lieu à toutes les superstitions imaginables. Donc le contexte était particulier. Et quand on considère que c'est dans ce contexte que Jonas est arrivé à Ninive, en proclamant que la ville serait détruite dans 40 jours, on peut comprendre, il n'est peut-être pas surprenant, surtout dans le contexte de l'époque, que la population et le roi local, il ne s'agit pas ici du grand roi d'Assyrie, Ashurdan, mais sans doute d'un roi local, qu'ils aient promptement exprimé un désir de repentance. Il est possible, par contre, que les Ninivites n'avaient pas compris grand-chose de l'identité et des projets du Dieu d'Israël. Il est possible, peut-être même probable, que cette repentance est restée superficielle. Peut-être qu'elle avait des éléments de superstition. De fait, Ninive a fini par être détruite. Aujourd'hui, il ne reste plus rien, à part quelques ruines. Et 50 ans après cet épisode, qui nous est raconté dans le livre de Jonas, la génération suivante donc a déclaré la guerre à Israël et a déporté la population du royaume du nord d'Israël, ce qui n'était pas bon signe de leur réorientation en faveur du Dieu d'Israël. Mais en disant cela, je crois qu'il ne faut pas non plus remettre en question un réel mouvement qui a lieu à Ninive ce jour-là. Et je crois que le texte, et on le verra notamment au chapitre suivant, laisse entendre que certains en tout cas, et beaucoup peut-être, se sont réellement tournés vers le vrai Dieu. Une repentance étonnante donc. Mais maintenant venons-en à la réaction de Dieu. Dernier point, une divine surprise. Dieu se révèle au verset 10 de notre texte comme le Dieu qui non seulement est prêt à faire grâce, mais qui aime faire grâce. Et ça c'est très important pour nous encore aujourd'hui. N'oublions pas que c'est Dieu qui, dès le début du récit, a pris le soin d'appeler Jonas et de lui demander de se rendre à Ninive. Pourquoi? Pas pour retourner simplement le couteau dans la plaie du péché de Ninive, mais au contraire pour lui donner l'occasion de se tourner vers lui. Et puis à nouveau, malgré les péripéties du chapitre 2, Dieu va envoyer une seconde fois Jonas pour qu'il fasse cette proclamation à Ninive. Et quand on arrive au chapitre 3, on a vraiment l'impression que Dieu savait exactement ce qu'il faisait, qu'il avait toujours eu l'intention de délivrer cette ville, mais qu'il avait voulu se faire connaître d'elle par un choc salutaire. Et encore une fois, il faut bien comprendre que le verdict prononcé contre Ninive n'était pas du cinéma. Ce verdict était parfaitement mérité. Mais Dieu, dans sa grâce, a annoncé une mauvaise nouvelle d'abord, pour que Ninive puisse saisir, au moins dans une certaine mesure, la bonne nouvelle que Dieu sauve et qu'il aime sauver. Ça doit nous rappeler que nous ne rendons pas service à nos contemporains lorsque nous leur communiquons une version édulcorée de l'Évangile. Paul parlait la semaine dernière des bisounours évangéliques. Effectivement, pour pouvoir venir vers Dieu, il faut d'abord être au clair sur le fait qu'on s'est éloigné de lui, qu'on aura besoin de son pardon. Un message très impopulaire, particulièrement dans notre civilisation. Aussi difficile à entendre que ce soit, il faut être au clair sur le fait que le verdict de Dieu contre l'homme qui persiste à vivre sans lui, c'est un verdict de mort. L'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais cette mauvaise nouvelle n'est pas la fin de l'histoire. Et on l'a vu, si Dieu annonce le verdict à Ninive, c'est en fait pour lui offrir une chance de se repentir. En ce qui concerne Ninive, la délivrance divine a été partielle, temporaire. En revanche, la délivrance offerte à tous les hommes, à toutes les femmes, en Jésus-Christ, est une délivrance totale, définitive. C'est le même Dieu, celui qui a renoncé à détruire Ninive, qui aujourd'hui encore appelle les gens de toutes les nations à confier leur vie à celui qu'il nous a envoyé, Jésus-Christ son Fils. Parce que ce jugement que Dieu a épargné, entre autres, à Ninive, cette destruction qui est la conséquence de sa colère contre le péché, il l'a fait tomber sur Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et c'est ça qui lui permet aujourd'hui de nous tendre la main et de nous appeler à une vie réconciliée avec lui. Et ce texte de Jonas 3 nous montre de manière particulièrement frappante que Dieu aime sauver. Ce n'est pas seulement qu'il est d'accord pour sauver, mais il aime sauver. Il est déterminé à le faire. Je voudrais conclure avec deux applications, l'une au niveau individuel et l'autre au niveau de l'Église. La première au niveau individuel est de prendre conscience, encore une fois, de ce que Dieu est le Dieu des nouveaux départs. C'est vrai pour Ninive, qui aura l'occasion ici de changer d'orientation spirituelle. C'est vrai aussi pour Jonas, qui, comme on l'a vu au début, est remis à son poste par Dieu, malgré une grave défaillance. Et la Bible est pleine de récits où on voit Dieu réhabiliter, dans sa grâce, dans son amour, ceux qui se sont éloignés loin de lui, et leur donner la possibilité d'une nouvelle espérance après un temps de ténèbres. On pense à l'apôtre Pierre, qui par trois fois a dit publiquement qu'il ne connaissait pas Jésus, sous serment même, et que Jésus va réhabiliter après sa résurrection, en lui faisant dire trois fois « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». La Bible est remplie de ces récits où Dieu, avec douceur, avec amour, remet sur pied ceux qui se sont éloignés de lui, ou ceux qui ont été gravement éprouvés. Si Dieu est allé chercher Jonas jusque dans le ventre du poisson, s'il est allé chercher Ninive au plus profond de son idolâtrie, il n'y a rien chez nous qui lui est inaccessible. Dieu sauve et aime sauver. C'est vrai d'ailleurs non seulement de notre positionnement spirituel fondamental, mais c'est vrai aussi, je crois, de son secours dans les circonstances diverses de notre vie. Un secours qui ne prend pas toujours la forme que nous attendons, qui ne vient pas toujours au moment où nous l'espérons, mais qu'il ne manque jamais de nous donner par amour pour nous. Et peut-être que pour certains aujourd'hui, ce matin, le moment est venu d'un nouveau départ avec Dieu. Pour la première fois peut-être, ou pour repartir de l'avant après un temps d'essoufflement, après un temps de découragement. L'autre application que je voudrais faire concerne notre église, l'église de Paris-Centre, rue de Sèvres. Est-ce que nous croyons que Dieu aime Paris? C'est-à-dire concrètement qu'il aime les Parisiens. C'est vraiment une preuve de son amour immense. Je suis parisien. Et si oui, sommes-nous prêts à nous faire les porte-paroles du message que Dieu adresse par Jésus-Christ? Sommes-nous prêts à supplier nos contemporains, comme l'apôtre Paul, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » de Corinthiens 5, verset 20. Je sais que pour ma part, j'ai toujours tendance à penser que, de toute façon, les gens ne voudront rien entendre. Plus ou moins inconsciemment, il y a la tentation de vivre notre petite vie chrétienne entre nous, advienne que pourra pour les autres, c'est leur problème. Et pourtant, Dieu nous appelle, individuellement, certes, mais surtout en tant que communauté, en tant qu'Église, il nous appelle à être ses témoins dans cette ville qui ignore tout de lui. Il y a des millions de Parisiens, de Français plus largement, et de gens partout dans le monde, bien sûr, je pense ici à notre contexte immédiat, il y a des millions de Parisiens qui n'ont pas la moindre idée de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont peut-être, oui, quelques vagues références religieuses, certes, mais connaissent-ils vraiment le message transformateur et salutaire de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Quitte à ce que beaucoup le rejettent, mais l'ont-ils au moins entendu? Beaucoup ne l'ont même pas entendu. Et qui leur annoncera, sinon nous, qui avons reçu ce message et qui avons vu nos vies transformées par Dieu? Est-ce que nos contemporains, est-ce que nos connaissances non chrétiennes, nos amis, nos collègues, nos familles, est-ce qu'ils nous voient comme des gens qui, parmi d'autres hobbies, ont une pratique religieuse? Ou bien est-ce qu'ils nous voient comme des gens qui ont consacré leur vie entière à leur foi en Jésus-Christ, quitte à ce que ça les surprenne, voire les choque? Une autre question que je me pose et que je nous pose, est-ce que nous prions pour notre ville régulièrement, individuellement et ensemble? Est-ce que nous sommes déterminés à nous mobiliser pour lancer, pour encourager, pour soutenir, pour promouvoir les diverses actions qui portent l'évangile de Jésus-Christ à nos contemporains? Si Dieu a pu utiliser un prophète raté comme Jonas pour appeler une ville étrangère à la repentance, pourquoi n'utiliserait-il pas des chrétiens parisiens craintifs comme nous pour porter sa bonne nouvelle à Paris? Dieu sauve et aime sauver. Il veut faire de grandes choses, nous pouvons en être convaincus, dans cette ville et dans ce pays. Et je crois qu'il nous invite à prier et à nous rendre disponibles pour cette œuvre qui devrait être finalement ce qui nous passionne et ce qui nous mobilise le plus. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi à Paris ?